comme ça.
Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, hey, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est...
Vous avez compris?
Encore une fois.
Si tu veux le louer,
il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, ton âme celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Il nous devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, mais celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser les soucis. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas? Nous c'est qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est le vent que tu récoltes.
Mais écoutez,
je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Oh, 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 oh.
Maintenant à vous. C'est Moussa, hein? Qui veut louer le Seigneur? C'est la plus fort. Ah, ça c'est mieux. Sans instrument.
Oh, 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 oh.
Plus fort.
Je veux te louer.
On y va.
Oh, 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 oh.
Tous ensemble.
Je veux te louer, je veux te louer. Oh, 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 oh. Je veux te louer. Oh, 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 oh.
Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce groupe. Que la grâce de Dieu soit sur eux et que leur séjour soit très fructueux au Burkina Faso. Donc ce soir, bien-aimés, nous allons voir notre dernier message public. Et nous allons nous exhorter les uns les autres comment entrer dans les faits divins, ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Et le titre de notre message ce soir, ne limitons pas Dieu. Pourquoi ne pas limiter Dieu? Parce que souvent, l'expérience que nous faisons avec Dieu, si nous nous prenons garde, on en fait un monument. Au lieu de laisser Dieu se mouvoir, et ce monument nous empêche de voir chaque aspect de présentation de Dieu dans nos vies. Si nous voyons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations, c'est dû à cela. Parce que chacun a expérimenté Dieu dans un aspect bien donné et n'a plus voulu bouger. Et comme Dieu voulait bouger, alors si je ne le suis pas, Dieu est obligé de chercher quelqu'un d'autre pour qu'il se meuve avec lui. Et il en est de même aussi lorsque il y a des bénédictions de Dieu que nous voulons avoir. Et en particulier la guérison, les miracles que nous voyons dans la Bible. Quand nous prenons le temps d'enlever nos lunettes personnelles, nos lunettes du moins dénominationnelles, nous commençons à découvrir Dieu tel qu'il est. Nous commençons à découvrir que Dieu n'est pas chrétien. Et nous découvrons que Jésus-Christ n'est pas chrétien. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Ah, on se pose la question. Ils ne sont pas chrétiens, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Ils ne sont pas chrétiens. Nous commençons à découvrir la réalité de Dieu telle qu'il est. C'est pourquoi parfois, c'est étonnant de voir ceux que nous appelons les païens avoir plus de foi que ceux que nous appelons chrétiens. Par ceux que nous appelons païens, il leur manque la révélation de Dieu incarné qui est venu sur la terre. Mais ils ne sont pas inconscients que Dieu existe, puisque la Bible dit que Dieu, dans Romains, dans d'autres passages, que par la nature, par toute la création, Dieu a montré à tout le monde que lui, il existe. C'est ça le danger que beaucoup de gens... C'est pourquoi il y a des endroits où il y a beaucoup de miracles et de signes que d'autres endroits. Alors, comment voulez-vous dire que des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ne sont pas chrétiens, on les appelle de façon générale des païens, des animistes, et c'est dans ces endroits-là justement qu'il y a le plus de miracles, de guérisons et de signes et de prodiges. Et ceux qui sont appelés chrétiens, il y a peu de miracles et de guérisons. Je vous pose la question, réfléchissez un peu. Parce que la pensée de l'éternité, Dieu a dit qu'il a mis dans la pensée de l'éternité dans chaque être humain qui a été créé. Maintenant, ils n'ont pas la révélation de comment s'approprier par Jésus-Christ. Donc, les bénéfices de ce qui s'est passé à la croix du calvaire. Quand nous regardons attentivement, tous les grands hommes de Dieu que nous admirons dans le monde aujourd'hui, il y a trois continents où ils ont fait, où leur élévation a été manifestée. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Tous ces grands hommes de Dieu ont été connus lorsqu'ils sont entrés, ils sont dans ces continents-là, où les gens ne sont pas, peut-être chrétiens comme on le dit, qui n'ont pas la culture chrétienne, mais qui croient en un Dieu tout-puissant, qui croient en un Dieu réel, même s'ils adorent et ils adorent ce Dieu à travers les idoles, mais qui, lorsqu'on s'arrête, on dit, Dieu est capable de lever un paralytique, il dit, oui, nous croyons cela. Et ils amènent, parce qu'ils croient cela, et ils voient les miracles. Je voulais interpeller vos pensées aujourd'hui, là, pour que vous réfléchissiez à cela. Pourquoi il y a tant peu de miracles dans l'Occident chrétien, dans l'Occident? Vous allez me dire que c'est à cause de la science. La science n'empêche pas les gens de se suicider. La science n'empêche pas que les hôpitaux fonctionnent. C'est simplement dû au fait que souvent les gens ont porté des lunettes pour voir Dieu d'une manière précise, étroite. Et c'est pourquoi Dieu n'agit pas. Si vous avez mis des lunettes pour voir Dieu en rouge et que Dieu agit en bleu, quand il va agir bleu, vous allez refuser que ce soit Dieu. Ne limitons pas Dieu. Et quand nous ne le limitons pas, nous osons croire tout ce que la Bible dit. Et la preuve est que la plupart des gens qui viennent en Afrique et qui parfois rassemblent des millions de gens, quand ils viennent en Europe, ils n'arrivent pas à rassembler 10 000 personnes. Alors, posez-vous la question, que c'est pas leur foi, c'est la foi des Africains. Parce que l'Africain croit que Dieu est capable de ressusciter un mort, même s'il est païen. Si vous dites que est-ce que Dieu est capable de ressusciter ce mort-là, il va croire. Il va te dire, lui, il croit. Et il s'assoit pour voir le mort ressuscité. C'est pourquoi ne va pas dire n'importe quoi en Afrique, parce qu'ils vont te défier. Si tu dis que Dieu ouvre les yeux des aveugles, ils vont amener tous les aveugles devant toi. Parce qu'eux, ils croient que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Toi, tu dois le croire maintenant. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais pourquoi tant de chrétiens sont malades? Dans le livre de Jacques, Jacques nous dit ceci, que s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, qu'il appelle les anciens pour qu'ils prient pour lui. Parce que l'église primitive avait compris comment la guérison s'opérait. L'église primitive avait compris quels sont les éléments, les faits de la croix, et que chacun pouvait s'emparer de ces faits-là dans sa maison pour la guérison. Quand les gens venaient à l'église, ils ne venaient pas pour être guéris, non. Dans l'église primitive, vous ne voyez que les païens être guéris. Dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, vous ne voyez pas les chrétiens faire une réunion de prière pour les malades. Regardez, lisez tous les livres des Actes des Apôtres. Et quand vous voyez Jésus guérir des gens, vous ne verrez pas Jésus guérir des chrétiens, des gens qui le suivaient. Aucune personne n'a été guérie autour de Jésus, parmi ses disciples et tout. Tous avaient la révélation de ce que Dieu faisait. Alors, pourquoi? Parce que nous avons limité Dieu. Et en limitant Dieu dans nos doctrines, nous avons amené Dieu à, nous avons imposé à Dieu d'agir comme nous pensons qu'il doit agir. Et si Dieu n'agit pas comme cela, nous refusons la forme de miracle et de guérison que Dieu veut utiliser à notre égard. Et nous allons voir ce soir, bien-aimés frères, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. La Bible dit par la bouche de Paul, inspiré par le Saint-Esprit, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Et il continue 7 et 8. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole donc de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, le don des guérisons. Et ensuite, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, et à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, et le don de discerner les esprits, pas un esprit, des esprits. Alors, on nous parle de diversité. Prenons les guérisons, les miracles. La guérison du cancer n'est pas la même chose que la guérison, par exemple, d'une autre maladie. C'est pourquoi, frère, il y a des choses qu'il faut regarder dans la Bible. Si nous mettons tout dans un fourreau, quand Dieu veut agir, nous le limitons, nous l'empêchons d'agir. Et pour cela, je voudrais ce soir partir sur ce plan pour que nous puissions aller de l'avant. Je ne vais pas tenir compte des chronomètres ou autre chose. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous parler à vous. J'oublie toutes ces choses-là. OK. Alors, c'est très important. Dieu, je voudrais vous dire, Dieu n'est pas un Dieu de pensée unique. Dieu n'est pas un Dieu de pensée unique. C'est pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, il n'a pas dit ma pensée. Dieu n'est pas un Dieu de pensée unique. Faisons attention à cela. N'étant pas un Dieu de pensée unique, alors nous ne devons pas avoir une pensée unique sur la manière dont Dieu agit dans l'Église et en dehors. Dieu n'est pas un Dieu de pensée unique. Il est un Dieu de diversité, un Dieu qui opère selon ses voies. Et comme il n'est pas un Dieu de pensée unique, alors nous devons découvrir une deuxième chose. Dieu est un Dieu de souveraineté. Personne ne peut douter de cela. Mais en même temps, à côté de sa souveraineté, il est un Dieu de grâce. Faisons attention à cela. Dieu ne fait pas toutes choses par sa souveraineté. Non. Je vais vous le montrer. Ça, c'est important. Sinon, nous allons tout le temps dire, oui, Dieu a fait ça, c'est parce que Dieu a permis. Non. Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Il a permis que cela arrive. Et dans la Bible, très souvent dans l'Ancien Testament, pour traduire l'hébreu en français, c'est difficile. Alors on a dit, Dieu a donné à Saül un esprit mauvais. Dans l'hébreu, ce n'est pas écrit comme cela. Dieu ne donne pas un esprit mauvais. Dans l'hébreu, il y a beaucoup de paroles où nous avons traduit en français comme si c'était Dieu qui était l'auteur. Dieu n'est pas l'auteur du mal. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a aucun mal. Il permet le mal parce que l'homme a décidé de sortir du parapluie de Dieu pour aller vers notre Dieu. En ce moment-là, il permet que le mal arrive. La volonté de la maman est que l'enfant ne soit pas malade en mangeant des pommes non mûres. Mais si l'enfant sort de la volonté de sa maman, aller manger des pommes non mûres, l'enfant aura des maux de ventre. Ce n'est pas sa maman qui lui a donné les maux de ventre, c'est parce que la volonté permissive de la maman a été mise en place et pour que cet enfant soit malade. Mais ce n'est pas la maman qui l'a rendu malade. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, souvent nous serons dans l'église, tout le monde va nous imposer les mains. Les grands hommes de Dieu vont nous imposer les mains et au fur et à mesure, notre foi tarit et on n'a pas guéri. Et cela est important que nous comprenions ces vérités-là. Donc, notre Dieu est un Dieu souverain, mais il est aussi un Dieu de grâce et là, sa grâce abonde. Et très souvent, Dieu utilise sa grâce concernant les maladies et les situations plus que sa souveraineté. Il utilise sa grâce plus souvent devant les cas comme des gens qui étaient malades, qui n'étaient même pas chrétiens. Et quand on regarde comment Jésus guérissait les gens, il utilisait sa grâce surabondante, manifestée donc à travers ce que Jésus faisait. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce soir nous amener nous-mêmes à réfléchir et à réfléchir sur la guérison et que Dieu peut opérer. Alors, puisque nous avons dit ici qu'il y a diversité d'opérations, et que dans cette diversité d'opérations, quand Dieu opère dans la guérison, dans le domaine de la guérison, il dit le don des guérisons. Quand il opère dans les miracles, il dit il y a des miracles spirituels simplement, il y a des miracles physiques, il y a des miracles naturels, des miracles de la nature, il y a des miracles au niveau financier, mais il y a plusieurs sortes de miracles que Dieu opère. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons cela, nous allons aller maintenant découvrir, faire quelques applications. Découvrons cela ensemble, le danger d'avoir une pensée unique, comment Dieu doit agir et comment Dieu doit opérer. Quand nous commençons à sortir de cette pensée unique-là, pour laisser à Dieu la liberté d'agir, nous commençons à voir plus que ce que nous avons expérimenté. Nous allons aller, premier exemple pratique ce soir, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, du verset 1 à verset 5. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 à 5. Je vais vous le lire. Et nous allons voir là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire miséricorde, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps et dans la piscine et agitait l'eau. Est-ce qu'on peut ouvrir mon retour et peut-être diminuer dans la salle? Et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Voici quelque chose qui va devenir une pratique et qui va amener une pensée unique dans la vie de quelqu'un. Et vous allez comprendre. Nous ne savons pas quelle est la cause, pourquoi Dieu a envoyé un ange pour remuer l'eau de la piscine de Bethesda. Nous n'en savons pas les raisons. Parce que peut-être en Israël, il y avait plus de foi. Il a fallu que Dieu opère de cette manière pour attirer l'attention sur le surnaturel de Dieu. Dieu fait des choses comme cela parfois pour que les chrétiens sortent de leur tradition. Et Dieu a été obligé d'envoyer donc un ange à Bethesda qui venait remuer l'eau Et alors, il y a eu un attroupement de malades. Cela veut dire que les gens ne pratiquaient plus la guérison divine, beaucoup en Israël. Et alors, les gens ont, à un moment donné, trouvé que la seule manière d'être guéri, c'est d'aller s'attrouper à la piscine de Bethesda. Cela est devenu une tradition, cela est devenu leur doctrine. Ils sont devenus l'église des Bethesda, l'église évangélique de Bethesda. Et à cette église évangélique de Bethesda, tous les malades étaient là. Et personne n'a fait une remarque. Il n'y avait que le premier malade qui s'est jeté dans l'eau qui était guéri lorsque l'ange venait. Alors, si on fait un calcul, s'il se trouvait que l'ange vienne seulement 10 fois par an, sur 1000 malades, il y aura 10 malades qui seraient seulement guéris. Est-ce que vous croyez que c'est la méthode de Dieu, ça? Non. Parce que les gens avaient dans leur pensée que désormais, pour être guéri en Israël, il y avait un seul endroit, c'est Bethesda. Et il fallait attendre qu'un ange vienne et que l'ange remue l'eau pour être guéri. Et tous les malades se sont attroupés à Bethesda. Plus personne... Si tu disais qu'il y avait un autre moyen d'être guéri, on va te condamner, on va te dire que tu es hérétique. Si tu disais que, mais est-ce que le Dieu de Moïse qui a guéri dans le désert là, par le serpent des reins, ne peut-il pas nous guérir aujourd'hui? On va dire non, aujourd'hui nous sommes dans la doctrine de Bethesda. Et cela est important, frère. Et c'est ce qui bloque la pensée des chrétiens. Quand ils deviennent chrétiens, ils rentrent dans un seul moule. Et ce moule-là les bloque parce qu'ils ne peuvent plus admettre que Dieu puisse agir de cette manière ou d'autre manière. Si Dieu n'agit pas comme cela, ce n'est pas vrai, donc nous rejetons. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens restent malades dans l'église parce qu'ils ne veulent pas agir selon les voies de Dieu. Bien-aimés frères, à Bethesda, on va découvrir quelqu'un. Dans le verset 5, il dit, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je l'ai appelé l'ancien de l'église de Bethesda. » Je l'ai appelé l'ancien de l'église de Bethesda. Il est le plus ancien, il est devenu l'ancien de l'église. Malade en permanence. Malade, et cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait comme problème? La première fois quand il est arrivé, il avait une espérance en lui. Il est venu dans ce lieu où on l'a déposé dans ce lieu-là, avec une forte espérance et une foi. Et il se disait, sûrement je serai guéri dans les meilleurs temps, et comme je le pense. Mais les jours se sont écoulés, pas de guérison. Les mois se sont écoulés, pas de guérison. Et cet homme-là, à un moment donné, il est devenu un résident permanent de la piscine de Bethesda. On lui a délivré une carte de résident. Ancien de l'église et dans le quartier, il était le résident permanent du quartier. Il était habitué maintenant, il pouvait dire à tout le monde, j'ai vu telle personne qui est venue ici, qui a été guérie, qui a eu des miracles. Mais quand on dit à toi, on dit, et toi? Il dit, non, vous savez, bon, Dieu a ses temps, Dieu est souverain, Dieu, non, mon frère. 38 années, même s'il était à 38 mètres de la piscine, chaque année il devait faire un mètre. Et la 38e année, le monsieur allait se trouver, réfléchissait logiquement. On dit le premier qui se jette dans l'eau est guéri. Il y a 38 ans, il a vu toutes sortes de gens guéris. Ce n'était pas difficile. C'était simplement un jour de s'avancer et sachant bien à quel moment il sait que l'ange vient. Maintenant, 38 ans, il a découvert comment l'ange vient. Il a découvert à quel moment l'ange vient. Quand l'ange vient, il connaît, il voit l'atmosphère. Il aurait pu, avec cette expérience-là, aller s'asseoir simplement où? Au bord de la piscine. Et tendre les pieds comme cela dans l'eau. Dès que l'enfant descend. Est-ce qu'il a fait cela? Est-ce qu'il a fait cela? Non! Vous voyez là? C'est pas difficile? Il est assis là. Dès que l'enfant vient, il descend. C'est fini, il est guéri. Non. Il avait dans sa pensée, il avait des idées comme beaucoup d'entre vous. Oui, il avait une pensée unique.
la pensée unique, il faut que l'ange, qu'un jour Dieu, quand même, pense à lui, que Dieu et que tout le monde lui disent, l'ancien est parmi nous depuis 38 ans, il n'a pas été guéri. Aujourd'hui, l'ange est venu, nous allons lui laisser la place. Et en ce moment, il allait aller tout doucement se jeter dans la piscine. Ça ne s'est jamais fait. Et il est devenu amer. Il est devenu amer. Il avait le ressentiment dans son cœur. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de chrétiens. Mais pourquoi, papa Jean, ne dit pas une parole de connaissance sur ma maladie? Mais pourquoi il vient chaque mardi et chaque dimanche, il prophétise et les gens viennent de loin, ils sont guéris. Mais moi, je suis dans cette église. Je suis un des anciens de l'église, la porte ouverte. Il ne parle pas des anciens de l'église, hein. Mais quand il vient prophétiser, jamais il ne dit rien. Parce que la pensée unique est là. Voici comment je dois être guéri. Je dois être guéri seulement par la parole de connaissance. Et il faut que ce soit la parole de connaissance qui va révéler, qui va me dire, il y a une femme ici qui a des maux de ventre. Et quand ça commence, ça tiraille, ça fait le bruit glou 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 glou. Et ça descend ici, maintenant. Elle a tel problème qu'elle se lève et Dieu la connaît personnellement. Elle s'appelle tant, elle a souffert. Oui, elle sera guérie. Et tant qu'il n'y a pas ça, je refuse d'être guéri par une autre méthode. Et voilà, elle est devenue résidente. Ouais, frères et sœurs. La tradition annule la parole de Dieu. La tradition nous amène dans une prison. Et la guérison est à côté de cet homme-là, 38 années. Réfléchissez, 38 années. Un homme qui est près d'une piscine, qui a vu des milliers de gens venir, guéris, et qui lui, sachant qu'on devait se plonger dans l'eau. Simplement. Mais il ne l'a pas fait. Parce que dans sa tête, ce n'est pas comme ça que Dieu doit faire. Il faut que l'ange fasse quelque chose. Et cet homme-là attendait la guérison. Il avait décidé que la guérison divine ne se faisait que par plongeon unique dans la piscine de Bethesda. Voilà sa doctrine. Il ne peut pas avoir une autre manière d'être guéri que par le plongeon unique dans la piscine de Bethesda. Alors, voici qu'un jour vient sur la scène. Sur la scène, un jeune homme apparaît, appelé le nom de Jésus. Dieu a compassion de cet homme-là quand même. Dieu dit, Jésus, quand Jésus a prié le matin, comme la Bible dit, Jésus dit qu'il ne fait rien sans que le Père n'ait dit. Le Père lui a dit, va à la piscine de Bethesda. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir là-bas, à petit feu, qui est dans l'amertume, va lui parler, parce que vraiment ça ne va pas. Et quand Jésus arrive, il s'adresse avec tant de milliers de malades, Jésus s'adresse à cet homme-là simplement. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, dans la défaite, et sachant que cet homme, il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Vous entendez? Veux-tu être guéri? Mais l'homme tout de suite a pensé, comme il avait une pensée unique de guérison, regardez sa réponse. La réponse, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Simplement, il n'a pas ajouté autre chose. Est-ce que tu veux la guérison? Regardez ça. La pensée unique, il la sort automatiquement parce qu'elle est en lui. Et il sort la pensée unique. Il dit, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre qui n'est pas du tout gentil descend avant moi. Tu sais, personne n'est gentil ici, personne n'est même assez pour laisser le passage que je parte être guéri. Veux-tu être guéri? On lui propose une autre solution. Veux-tu être guéri simplement? C'est la guérison que tu veux, mais lui, il choisit la méthode. La méthode de guérison, c'est le plongeon unique dans la piscine de Bethesda. Le Seigneur lui demande, veux-tu être guéri? C'est la question, elle est là. Veux-tu être guéri? C'est ça qu'on vous pose comme question. On ne vous pose pas la manière d'être guéri. On vous demande si vous êtes guéri. C'est ça. Diversité d'opérations. Le don des guérisons. Lui, il a dit, il n'y a qu'un don de guérison par la piscine. Jésus vient avec le don des guérisons. Lui, il dit, non, je veux être guéri de cette manière. La pensée unique. Alors souvent, ce qui fait que les gens viennent à des réunions, et souvent les gens tombent dans ce piège-là, disent ouais, vous savez, je suis malade, telle personne. J'étais à Paris une fois, je prêchais dans une église. Il y a une dame qui m'a amené son enfant, et elle dit bon, il faut prier pour lui. J'ai dit bon, je vais prier. Elle dit mais attendez, Mamadou, vous connaissez tel évangéliste? Il dit oui, il a prié pour l'enfant, il n'est pas guéri. Tel évangéliste, il a prié, il n'est pas guéri. Alors je lui ai dit au revoir. Je ne veux pas être sur ta liste. Non, ça je refuse. Hein. Je refuse que tu me mettes sur ta liste. Ta liste noire où Mamadou tient la queue maintenant. Non, je refuse ça. Oui. Ouais. C'est un malin plaisir qu'elle a dans son cœur de dire que tous les évangélistes ont prié et que son fils n'est pas guéri. Ah, je lui ai dit, madame, je m'excuse, mais si vous voulez me mettre sur votre liste, je m'en vais. Elle dit, non, il faut comprendre. Je lui ai dit, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Moi, je crois, je ne comprends pas, je crois. C'est important, frères et sœurs, la pensée unique. Et Jésus a insisté. Jésus n'a même pas répondu. Jésus lui dit, bon, il y a une opération que Dieu va te dire, lève-toi et prends ton lit. Lève-toi et prends ton lit. Jésus n'a pas dit, lève-toi, jette-toi dans la piscine. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Mais Jésus, ça fait 38 ans que je suis là. Si je pouvais me lever et être guéri, j'allais le faire. Jésus dit, il a guéri cet homme-là par la parole. Comprenez? Ça, c'est le premier exemple que je voudrais vous dire ce soir. Et je vais continuer encore. Deuxième exemple, ça, c'est l'exemple d'un autre homme. Lui, il est différent de celui-ci. Lui, il s'appelle Naaman. Le premier, lui, il voulait être guéri par un plongeon de la piscine. L'autre, on lui propose une piscine, lui, il refuse. C'est ça. Naaman est un lépreux, un général, un grand, un homme vaillant. Et puis, il a la lèpre. Et la lèpre était incurable à l'époque. Et il était en danger. Une petite fille d'Israël qu'on a amenée de la guerre, donc chez Naaman. Et elle dit à la femme de Naaman, si mon seigneur Naaman était en Israël, il y a là-bas un homme de Dieu qui est un prophète qui va le guérir. Naaman s'en va. Dans sa tête, il a une idée comment on doit être guéri. Il s'en va voir le roi d'Israël qui se met en colère. Enfin, on dit qu'il y a un prophète, Élisée, qui guérit les gens, qui prie. Il s'en va chez Élisée avec une pensée unique. Il a déjà décidé comment il doit être guéri. Mais il ne veut pas être guéri. Il décide déjà comment il doit être guéri. Et quand il s'en va, le prophète, Dieu dit au prophète, ne sors pas, parce qu'il faut qu'il sache que je suis libre de guérir comme je veux. Je suis un Dieu de diversité d'opérations. Il y a plusieurs sortes d'opérations que je manifeste. Dis-lui simplement par un simple serviteur d'aller, lui, se plonger 7 fois dans la piscine. D'aller se plonger 7 fois dans la piscine. Et sa peau sera plus saine que la peau d'un bébé. Alors, normalement, si vous n'avez pas de pensée unique, si vous n'êtes pas vexé par les pensées d'autrui qui ne sont pas en corrélation avec vos pensées, on vous dit clairement, vous avez une peau lépreuse. On vous dit d'aller vous plonger dans l'eau 7 fois et votre peau sera aussi lisse que celle d'un bébé. Mais normalement, vous devez être content et parti. Ce qui importe, c'est le résultat. Ma peau sera lisse comme celle d'un bébé. Mais non, les gens, ça ne les intéresse pas. Il est en colère. Qu'on lui donne une peau comme celle d'un bébé ne l'intéresse pas. C'est la méthode, là, le comment. Pourquoi on lui dit à lui, général 3 étoiles, d'aller se plonger dans la piscine boueuse du Jourdain? Les gens sont vexés inutilement. Les gens sont vexés. Ils sont vexés parce que quand la parole de Dieu sort, ça ne correspond pas à leurs pensées. Ils se mettent en colère. Ils sont vexés. Ils sont offensés. Ils sont assis. Ils disent non, moi, je suis comme ça. Non, c'est pourquoi ils ne sont pas libérés et guéris. Et Naaman, dans sa susceptibilité, prend la route pour aller chez lui. Mais c'est terrible. Regardez comme l'orgueil personnel, regardez comme la fierté personnelle nous crée des problèmes. Un homme qui sait que s'il va en Syrie, avec la lèpre, dans quelques mois, il sera déshabillé, il sera plus militaire, et il n'a même plus le droit de visiter sa femme et ses enfants. Malgré tout cela, son orgueil personnel, sa pensée unique, il ne veut pas accepter. Réfléchissez, vous allez voir. Réfléchissez. Dieu a plusieurs manières de vous libérer, de vous guérir. Mais vous lui imposez votre manière. La lèpre, bientôt, Naaman, la lèpre va ronger ton nez. Beaucoup de gens n'ont jamais vu les lépreux. Là, leur nez est rongé totalement. Les doigts sont rongés. Tout est rongé. Tout est plein. Mais malgré tout cela, ce n'est pas ça qui l'inquiète. C'est la manière que Dieu lui a imposé d'être guéri qui le vexe. C'est terrible, hein? L'homme est terrible. L'homme est terrible, il est susceptible et l'homme a une pensée, la pensée qu'il a en lui, il veut l'accomplir coûte que coûte contre Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Et il s'en allait. Il s'en est détourné, il partait en colère. Et puis il dit, mais chez moi, il y a deux fleuves, l'Abana et le Parpar. Les eaux de ces fleuves-là sont pures, plus que les eaux bouées du Jourdain. Si c'est simplement pour plonger dans l'eau, je peux me plonger dans l'eau de l'Abana, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu du jour, c'est que tu as été plongé cette fois dans le Jourdain. Pas dans l'Abana, pas dans le Parpar. Enfin, les soldats ont dit à Naaman, général, ce que le prophète demande de faire n'est pas une chose difficile. S'il t'avait dit de faire le parcours du combattant, tu l'aurais fait. Il dit oui. Mais que moi, général, on me demande d'aller me plonger dans de l'eau devant mes soldats, ça c'est humiliant. La Bible dit que l'humilité précède là et l'orgueil précède. Voici un homme qui était tout juste près de sa guérison, mais qui a donné dos à cette guérison et qui s'en allait dans la destruction de la mort. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'obéir. Une fois, il y a une dame qui vient à une réunion. Elle s'est mise aveugle avec une canne, comme en Europe, là, les cannes pour eux. On va prier pour vous. Mais si on ne prie pour vous, vous devez abandonner votre pension que l'État vous verse, non? Et dit, non, si c'est ça, je préfère garder ma pension. Je préfère garder ma pension. Vous imaginez? Elle ne voit pas. Elle a une canne blanche. On dit, on va prier. Mais quand on va prier, soyez honnête. Retournez au service social. Dites-le que Dieu vous a guéri et vous renoncez à votre pension. Elle dit, si c'est ça, non, je préfère ma pension. Et puis elle a continué. Écoutez, votre raisonnement, vous riez d'eux, mais vous-même qui êtes assis là, réfléchissez. Vous avez déjà mis des choses en prison et vous avez fermé. Et vous ne voulez pas qu'on touche à cette manière de réfléchir. Et quand on la touche seulement, vous accusez les gens d'hérésie. Vous accusez les gens de... Non, ce n'est pas vrai. Ce que vous n'avez jamais vu n'est pas une hérésie. Ce que vous n'avez jamais découvert n'est pas une hérésie. C'est vous qui êtes ignorant. Ce n'est pas l'autre. Quand nous sommes venus la première fois en France, et que ici, quand je suis allé en vacances, j'ai dit qu'en France, il y a des moments, le sol est couvert de glace, la glace. En Afrique, la glace dans les frigidaires. Quand j'ai dit que le sol est couvert de glace, ils m'ont entouré, ils m'ont dit, tu vois, tu es un gars sérieux, mais un gros mensonge comme ça, un gros, mais tu nous prends pour des idiots. Tu nous prends pour des idiots. Il dit, mais comment? Comment tout un sol peut être couvert de glace? Il dit, bon, tu es allé en France, mais nous ne sommes pas idiots, hein? Il faut que tu nous respectes. Donc, ils m'ont traité d'hérétique. Pour eux, la glace, c'est dans le frigidaire. Il faut casser les limites que vous avez mises sur Dieu là. Les limites, faut les briser. Faut briser ça. Libérer. Faut libérer Dieu. Libérez Dieu, laissez-le agir comme il va faire. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens vont penser de vous. Une fois, quelqu'un vient à une réunion. J'ai des mots de vent terribles. Ça ne va pas. Dieu dit, dis-lui d'aller prendre un verre d'eau et de boire. Ah non, pasteur, on n'a jamais vu ça. Tu n'as jamais vu? Va boire de l'eau. Il a bu l'eau, il a été guéri. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ça, quand le Saint-Esprit parle, il faut obéir. Simplement. C'est ça. Va boire de l'eau, tu es guéri. Il a bu de l'eau, mais il dit, mais chaque jour je bois de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est l'eau de la parole qu'on dit d'aller boire. Dieu a parlé aujourd'hui, bois de l'eau. C'est l'eau que Dieu a dit, va boire. Ce n'est pas l'eau qui t'a guéri. Ce n'est pas l'eau qui a guéri Naaman. C'est la parole qui a guéri Naaman. Dieu a envoyé sa parole, psaume 107, verset 20, et il a guéri. Ce n'est pas l'eau qui a guéri Naaman. Vous qui allez chaque année en Israël, là, Jourdain a déjà guéri quelqu'un? Vous allez en Israël aujourd'hui? Est-ce que le Jourdain a déjà guéri des gens? Donc, vous voyez, frère, c'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut enlever les lunettes posées. Dis au Saint-Esprit, enseigne-moi la parole de Dieu. Saint-Esprit, enseigne-moi et dis-moi ce qu'il y a à faire. Le troisième homme qu'on va voir, et ensuite on va prier, c'est dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ça, c'est un grand prophète que Dieu va envoyer en mission. Et nous allons voir, donc, qu'est-ce qui va se passer. Le premier a voulu être guéri par un plongeon unique. Lui, il a été guéri par la parole. Le deuxième, on lui dit de se plonger dans l'eau, lui, il refuse. Mais quand il s'est plongé, il a été guéri. Troisième cas, Ésaïe 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle, vous entendez ? Ainsi parle l'Éternel. Il parle la part de Dieu. Vous entendez ? Dieu souverainement a décidé que ça en est fini. » D'Ézéchias. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Et qui est en train de parler? Ésaïe. Qui est Ésaïe? Celui qui a prophétisé que la Vierge enfantera. Ça s'est accompli. C'est lui qui a prophétisé, c'est lui qu'on appelle le cinquième évangile. C'est lui, Ésaïe, qui s'en va maintenant prophétiser sur quelqu'un. Et il dit, ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire que il n'a pas dit, Dieu a dit. Quand dans l'Ancien Testament, vous entendez, ainsi dit l'Éternel, ça correspond à ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament, en vérité. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est déjà scellé, c'est fini. On n'en parle plus. Ainsi parle l'Éternel. Et qu'est-ce que ce Dieu a dit? Il lui dit, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Prophète authentique. Il ne s'est pas trompé. Il n'a pas mangé des choses bizarres la nuit avant de dormir. Il a reçu une parole de Dieu. Et il est venu l'annoncer à Ézéchias. Et qu'est-ce qu'Ézéchias fit? La Bible dit, Ézéchias est un homme qui connaît Dieu. Ézéchias n'a pas de pensée unique. Ézéchias n'a pas dit, oui, comme le prophète a parlé, ça n'est fini de moi. Je vais me préparer à mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a tourné sa face contre le mur. Il a donné dos à ce que Ésaïe vient de dire. Il a dit, Ésaïe, toi tu es un envoyé, moi je vais aller demander à Dieu. Je suis grand pour parler à Dieu. Écoutez frère, je suis assez grand pour parler à Dieu. Et il a commencé à parler à Dieu. Et quand il a commencé à parler à Dieu, frères et sœurs, les gens disent c'est un truc, c'est un cas unique. On a vu plein de cas comme cela où Dieu a rajouté. Il dit, il se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Première guérison, l'homme voulait un plongeon unique dans une piscine. Deuxième guérison, c'est le fleuve Jourdain, le plongeon dans le fleuve Jourdain. Troisième manière d'être guéri maintenant, cet homme-là verse d'abondantes larmes, la piscine des larmes. Lui, il va se plonger dans une piscine que lui-même, il va créer par ses propres larmes. Il tourne et il parle à Dieu. Il plaide sa cause près de Dieu. Il crie à Dieu, frère. Ce n'est pas une doctrine étriquée. N'ayez pas cette pensée, parce que votre pensée revient vers moi comme un boomerang. Ce n'est pas une pensée étriquée. N'allez pas me dire, frère, que cela-là n'est pas biblique. N'allez pas me dire que Dieu ne fait pas la même chose. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas son secrétaire. Je vous défends de dire que ce que Dieu a fait ici, Dieu ne le fera pas avec quelqu'un, même si Dieu a parlé souverainement. C'est pourquoi tant de chrétiens meurent. Tant de chrétiens meurent à l'âge. Non, ils n'ont jamais accompli leur vie. Il dit à Dieu, non, pas question. J'ai marché devant ta face. J'ai accompli, j'ai fait ce qui est bien. Seigneur. Et au moment où Esaïe partait, Esaïe le prophète, l'homme qui parle de la part de Dieu, l'homme qui a vu, qui a entendu que la Vierge enfantera, le voilà, Dieu le retient dans la cour intérieure. Dieu le retient dans la cour intérieure et la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Où ? Quand Esaïe partait. Et la parole de Dieu lui dit, va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que Dieu se contredit-il? Non. Est-ce ce que Dieu a dit? Pourquoi Dieu a changé, frère? Et beaucoup de gens, pour excuser tout cela, ont dit oui, Ézéchias a prié, il a eu 15 ans, mais il a produit l'un des rois les plus méchants. Mais ce roi-là, il a bien fini. Il a mal commencé, mais il a bien fini. Manassé. Ne prenez pas des choses pour essayer d'opposer à Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas son secrétaire. Vous n'êtes pas son conseiller. Faites attention à cela. De vouloir mettre Dieu dans votre bouteille mentale. Alors, Dieu a dit à Ézéchias, ne regarde pas ta renommée, tu n'es qu'un instrument. C'est moi qui parle. Si quelqu'un a des problèmes, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta réputation qui est en jeu. C'est simplement ma réputation. C'est moi qui t'ai dit d'aller et c'est moi qui t'ai dit de repartir. Obéis simplement à ce que je t'ai dit. Et souvent, nous avons tellement... nous pesons sur notre pensée, les gens vont croire qu'on prêche des choses qui ne sont pas bonnes. Non, frères et sœurs. Non. Une femme avait un cancer de sein. La prière a été faite, rien ne se passe. Elle vient, le Seigneur dit, quelle est votre relation avec votre maman? Il dit, ma mère est morte. Il dit, mais oui. Mais quelle est votre relation avec votre maman? Ah oui, j'ai souffert dans mon enfance. Ma mère m'a tellement traumatisé avec des paroles. Il dit, le Seigneur te dit, ma fille, vous avez un ressentiment que vous avez développé dans votre enfance envers votre maman. Et aujourd'hui, beaucoup de cas de cancer sont dus aux mauvaises relations. Il dit, si tu décides de pardonner à ta maman maintenant, tu es guéri. Mais maman est morte. Mais c'est que ta relation avec ta maman reste encore. Tu n'as pas coupé le cordon ombilical par le pardon. Et cette femme, là, elle s'est mise à genoux et dit, Seigneur, je pardonne à maman pour tout ce qui s'est passé. Comment j'ai été maltraitée. Parce que sa maman était dure. Elle était sévère. Et l'enfant a été beaucoup rejeté, beaucoup maltraité. Elle a grandi avec l'amertume et le ressentiment vers sa maman. Et ça a continué jusqu'à ça, où elle devenait grande. Plusieurs d'entre vous, vous êtes dans ça. Et quand elle a fait ça, elle est partie la nuit. Écoutez-moi, frère. Le lendemain matin, quand elle s'est levée, plus de cancer dans le sein. L'imposition des mains a été faite. La méthode classique pour guérir les malades. L'onction d'huile a été faite. Une méthode classique pour guérir les malades. Mais Dieu dit ici, ce n'est ni l'imposition des mains, ni l'onction d'huile. Elle a la solution avec elle-même parce qu'elle refuse.
J'ai vu la même délivrance vers Lille, à Lens. Une famille où il y avait la fille qui était devenue lesbienne. À cause de quoi? De sa mauvaise relation avec son père. La fille est devenue lesbienne. Il y avait une mauvaise relation avec le père. Alors elle s'est détournée de tous les garçons et s'est tournée vers les filles. Et le fils aîné, avait une mauvaise relation aussi. Lui, il est devenu très dur. Et quand je suis allé, alors, ils sont venus exposer le cas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Le Seigneur m'a dit, va t'asseoir sur un canapé, tout juste sur un divan, et appelle, fais rentrer les gens. Quand la fille est rentrée et s'est assise, j'ai dit, assois-toi ici. En ce temps, il y avait les gens qui attendaient là. J'ai dit, maintenant, ferme les yeux. Elle a fermé les yeux. Il dit, pose ta tête sur mon épaule ici. Elle a posé sa tête. Dis maintenant, papa. Quand je disais, pap, elle s'est écartée. Elle ne peut pas dire papa. Elle ne peut pas dire le mot papa. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais entre mon père et moi, ça ne va pas. Il ne m'a jamais aimé. Il a fait telle, telle chose. Il a fait telle, telle chose. J'ai dit, les autres étaient là. Repose ta tête. Quand elle a posé, j'ai posé ma main sur ça. Il dit, dis papa. Maintenant, dis, elle ne peut pas appeler Dieu papa. Elle n'a jamais prié en disant père. Elle dit tout le temps Jésus. Elle parle du Saint-Esprit, mais elle ne peut pas dire à Dieu père. Parce que la relation avec son père a été déformée. Quand elle a dit cela, j'ai dit maintenant, dis père. Quand elle a dit ça, on dirait qu'elle était étranglée. Mais quand elle a pu dire père, père d'amour, je pardonne à papa. Quand elle a pu dire cela, c'était avec effort. Elle était en train de suer, de transpirer. Le lendemain matin, quand je suis allé à la réunion, quand je suis rentré dans la salle, le père, la mère et la fille étaient ensemble, se réjouissaient. Elle est mariée, elle a des enfants maintenant à Paris. Elle est libérée totalement. Quant au garçon, c'était un problème. L'après-midi, on amène le garçon, un homme de 25 ans. Devant l'église, j'étais arrêté près de la voiture, d'une voiture. Et quand le garçon est venu, les parents étaient de l'autre côté de la rue. Ils regardaient ce qui va se passer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai une mauvaise relation avec papa. Papa nous a traumatisés. Il dit, mais est-ce que tu vas pardonner? Il dit, non. Il refuse. Et quand je lui dis maintenant, je tiens sa main. Je lui dis maintenant, ferme tes yeux. Dis, je pardonne papa. Et quand il a commencé à dire ça, d'un seul coup, il est tombé, pap. Et il a commencé à rouler. Les démons ont commencé. Les parents, ils regardaient. Quand on a dit, oh, j'ai pris autorité sur ces démons-là, et parce que l'enfant a confessé, l'enfant s'est relevé brusquement, il était libéré, et le père et la mère ont couru, sont venus serrer l'enfant. Une famille totalement aujourd'hui unie. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, ne mets pas Dieu dans une bouteille. Ne dis pas, Dieu doit faire comme cela. Parfois on a imposé les mains aux gens, qu'on a imposé des tonnes de mains. C'est devenu des tonnes. Maintenant ils sont enterrés, ensevelis sous les tonnes de mains. Et il ne peut plus s'en sortir. Parce que l'imposition des mains sans la foi, sans mettre en règle certaines choses, ne marche pas. Une fois, dans notre église, Dieu me dit, tu vas prier aujourd'hui pour les femmes qui n'enfantent pas. J'ai demandé aux sœurs qui n'enfantaient pas de venir devant, elles sont venues nombreuses. Il dit maintenant, croyez, je ne ferai pas l'imposition des mains, je vais proclamer la parole sur votre sein. Je vais proclamer la parole sur votre sein. Soyez féconds. Soyez féconds au nom de Christ Jésus. Soyez féconds au nom de Christ Jésus. Soyez féconds au nom de Christ Jésus. Je commande à votre sein. Je commande à l'utérus. Je commande à l'utérus de porter un enfant sain. Je commande à vos ovules, à vos ovaires de fonctionner. Je commande à toute trompe fermée, toute trompe bouchée de s'ouvrir maintenant. Et que cet enfant vienne. Allez-y. Écoutez, frère. Écoutez. Ne mettons pas Dieu dans une bouteille. Nous avons vu l'année qui a suivi là, une à une, elles sont venues présenter les enfants. Mais une, celle qui nous a beaucoup frappé, celle qui nous a beaucoup frappé la pensée, c'est une qui était mariée à un musulman, et ça fait 8 ans. Et pendant ces 8 années, elle n'a pas d'enfant. Alors les parents du mari musulman ont dit, bon, comme le musulman a droit à 3 ou 4 femmes, et comme cette femme n'enfante pas, tu as droit encore de prendre 2 ou 3. Le monsieur a dit non, j'aime ma femme. C'est vrai, je suis bon musulman, mais j'aime ma femme, je veux une seule femme. Il dit ok, nous on n'a pas de petit-fils encore. Et il laissait sa femme venir à l'église. Elle était parmi ces gens-là. Quand j'ai dit cela, elle est partie. Elle dit alléluia. Et dès qu'elle arrivait à la maison, elle dit à son mari, le pasteur Karambir a dit je suis enceinte. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit qu'elle est enceinte? J'ai dit soyez fécond. Je n'ai pas dit enceinte. Parce que si elle est enceinte, qui l'a enceintée? Ah oui. Parce qu'en Afrique, quand je voyage beaucoup, j'arrive dans plusieurs pays, beaucoup de femmes viennent avec des enfants, disent, papa, pasteur, voilà ton enfant. Mais je regarde à gauche, à droite, je ne vois pas quelqu'un de notre église, je dis alléluia. Alléluia, il n'y a aucun de notre église ici, sinon c'est grave. Je dis, mais ma soeur, mais mon enfant, ça veut dire quoi? Il dit, non, l'année passée, quand vous êtes venu, vous avez prié pour les femmes stériles. Et j'ai ah, il dit, mais dites, Dieu vous a donné un enfant. Ne dis pas, c'est mon enfant. C'est pas mon enfant. Hein. Ne dites pas ça. Heureusement que ma femme ne me suit pas. Sinon, c'est grave ça. Ah bon, tu pars pour prêcher, tu fais des enfants? Ça, c'est un évangéliste. Et cette dame-là, pour clore mon histoire, cette dame, elle a dit à son mari, et son mari s'est réjoui. Et il s'est levé, allé dire à ses parents, vous avez dit que ma femme n'enfante pas? Mais elle est enceinte. Alors, un mois et demi, et je reçois une lettre le matin dans mon bureau. J'ouvre la lettre, je lis. Elle dit, pasteur, tu nous as dit qu'on était enceinte, qu'on était tout ça. Mais ça fait un mois et demi, maintenant j'ai vu mes règles. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire à mon mari? Qu'est-ce que je dois dire à mes beaux-parents? J'ai vu mes règles sont venues. Alors j'étais assis, j'étais embêté, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'il faut dire? Dieu dit, prends le téléphone. J'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à la dame. Il dit, ma soeur, ah oui, pasteur, c'est toi. Ah oui, ça va pas. J'ai dit à mon mari, j'ai dit à mes beaux-parents, tout le monde attend, tout le monde est content, mais j'ai vu mes règles. Alors je lui ai dit, ma fille, voilà, on va être calme. Dieu ne ment pas. Si tu as vu tes règles, c'est bien. Mais je te dis une chose, même si tu voyais tes compas et tes doubles décimètres, même si tu vois tes compas, tes équerres, tu es enceinte. Au nom de Jésus. Au revoir. Elle a vu ses règles, mais moi je lui dis ses compas et ses doubles décimètres. Un jeu de mots. C'est un jeu de mots pour les femmes. Elles comprennent ce que ça veut dire. Mais neuf mois, elle est venue présenter l'enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si les règles se sont déréglées ou quoi. Mais ce qui est sûr... Elle a présenté l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. Nous étions à la première conférence d'Oron, la première conférence de guérison d'Europe à Oron. Et ce soir-là, j'ai donné un message avec un habit où j'ai fait coudre un habit en plusieurs couleurs. Et bleu, blanc, rouge, j'ai mis péché, et maladie, malédiction et pauvreté. Ça, c'est le premier habit que tous les hommes ont. Tous les hommes sont nés avec cet habit-là. C'est leur nature. Et j'ai fait faire une autre chemisette en blanc où j'ai mis maintenant sauvé, guéri, béni et riche. Et j'ai montré aux gens que cet habit que nous avons sur nous, quand Christ est mort à la croix du calvaire, il a pris cet habit sur lui. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, nos malédictions et notre pauvreté. Et en retour, il nous a donné cet habit-là où nous sommes sauvés, guéris, bénis et enrichis, prospères. Alors, j'ai pris cet habit, j'ai mis sur quelqu'un d'autre, j'ai dit, regardez maintenant, cet homme-là, c'est Jésus. Et ceux qui viennent à Jésus et qui ont reçu Jésus, Jésus leur donne cet habit blanc avec guéri et tout. J'ai dit aux gens qui étaient là que tout le monde regarde ces deux habits. Le premier habit, c'est ta vie de péché, de malédiction, de maladie. Et le deuxième habit, c'est ce que Jésus nous a donné. Et ce soir, j'ai dit, je ne prie pas pour les malades. Si vous regardez attentivement ce que Jésus a fait, c'est ça, Ésaïe 53, 4, 5 et 6. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies, et c'est par ses mérites que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24. Il dit, regardez cet habit, croyez simplement. Ce que Dieu m'a dit de faire, moi je l'ai fait. Bon, le samedi, les témoignages ont commencé. Il y a une dame dont nous avons retenu le témoignage, qui est jusqu'à présent en Suisse. Elle avait un problème où elle ne pouvait pas, une percie au niveau de la vessie, où elle ne pouvait pas retenir les urines. Et quand cette dame, elle partait au supermarché, quand elle était dans la ligne comme cela, la dame qui est derrière dit, madame, regardez, regardez. Quand elle regarde, en bas, c'est des urines. Elle ne pouvait plus sortir. Et la nuit, elle achetait des couches de bébé. Elle mettait, et puis elle mettait sur son matelas un plastique. Donc, ça a duré ainsi. Les médecins ont dit, madame, on ne peut rien faire, on va vous suivre, mais on ne peut pas, parce qu'il y a eu quelque chose dans la vessie qui ne va pas. Et ce soir-là, quand j'ai dit de regarder, elle était en colère. Dans son témoin, elle m'a dit qu'elle était en colère. Elle est venue pour qu'on lui impose les mains. Elle est venue pour qu'on la oigne d'huile pour guérir. Mais venir montrer un habit où il y a bleu, blanc, rouge. Et ensuite avait péché et tout. Et dit de regarder, on est guéri. Elle était fâchée. Mais à un moment donné, quelque chose lui a dit dans son cœur. Il dit, mais tu n'as rien à perdre. Regarde l'habit et crois que cet habit-là, où il y a tes péchés, tes maladies, Jésus a pris ça. Et que tu as porté maintenant, donc, ce que Jésus a donné. Elle a remercié Dieu, elle est partie chez elle. Ça, c'était le mercredi soir. Le jeudi matin, elle s'est réveillée, le lit n'était pas mouillé. Ah, elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est partie le jeudi, le vendredi matin, pour voir son médecin. Elle dit, médecin, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le médecin dit, on va te soumettre à un examen. Ils ont regardé, donc, avec les appareils, mais le médecin dit, mais comment? Ce n'est pas possible. Le trou est fermé de lui-même. Où vous êtes allé? Qui vous a opéré? Elle dit non. Je suis allé dans une réunion de prière à Oran, dans la salle, et on a prié pour les malades. On a dit de regarder, et j'ai regardé, je suis guéri. Elle est venue donner ce témoignage ce samedi soir-là, frères et sœurs. Et une dame âgée qui avait une descente d'organes. Et on l'avait prévu pour l'opérer. Même chose. Et les médecins avaient son dossier dans la main. L'organe était descendu. Et quand on a prié, et elle a reçu Christ simplement, elle a dit, si Christ est réellement le sauveur, et c'est lui qui guérit, moi je suis guéri. Et après la réunion, 2 semaines, elle est partie voir son docteur, et on l'avait préparé pour l'opération. Mais le professeur a dit à un de ses médecins, allez-y faire les derniers examens pour préparer la dame. Quand ils sont allés, les médecins sont revenus 5 minutes, disent, mais professeur, quelque chose s'est passé, regardez les radios. Le professeur s'est fâché. Il dit, non, mais vous avez, c'est pas elle, c'est pas son dossier. Il a sorti le dossier, il a dit, madame, venez. Quand il est parti, il a vu que les organes sont complètement remontés et en place. Alors, la femme lui dit, mais docteur, vous croyez au miracle? Il dit, mais ça dépend. Il dit, mais vous avez vu un miracle, non? Il dit, oui. Est-ce que j'ai été opéré? Il dit, non. Alors, le docteur a pris un papier, il a mis dessus guérison charismatique. Il ne comprend rien, mais il a mis guérison charismatique. Alors ce soir, mon frère, on va s'arrêter là. Ce que je voulais vous dire ce soir, je voulais vous interpeller chacun des internautes pour qu'on dise simplement qu'on sache une chose, frères et sœurs. Je voulais qu'on soit interpellés, de ne pas limiter Dieu dans la manière de nous guérir. Parce que si nous le limitons, nous devenons comme le premier homme là. Nous devenons amers. Nous avons des ressentiments. Nous allons voir des gens qui viennent la première fois ici, qui sont guéris. Des gens qui viennent, qui vivent une mauvaise vie et sont guéris. Et à un moment donné, on est fâché contre Dieu. On est fâché contre les pasteurs. On va dire, mais pourquoi ils aiment ces gens-là, ils ne nous aiment pas? Parce que nous avons limité. Nous devons venir à l'église en tant que chrétiens, ayant en pensée que Dieu peut me guérir pendant la prédication. Dieu peut me guérir par une parole de connaissance précise. Dieu peut me guérir par l'imposition des mains. Dieu peut me guérir simplement par une révélation. Dieu peut me guérir par l'onction d'huile. Dieu peut me guérir même quand je suis avec ma femme et mon mari, on prie ensemble d'un commun accord, Matthieu 18:18. Dieu peut me guérir. Donc nous devons laisser la liberté à Dieu, lui donner la disponibilité de nous guérir comme il veut. Et en ce moment-là, notre cœur est libéré. On n'est plus vexé, on n'est plus frustré, on n'est plus fâché contre Dieu. Dieu, comment Dieu nous guérit,
Dieu nous libère. Mais si nous voulons opposer les choses comme cela, Dieu ne fera pas. Et c'est cela souvent que nous voyons. On a vu une femme guérie, une femme de la ville, une prostituée qui est venue en chaise roulante, être guérie en un clin d'œil, une prostituée. Et dans l'église, on a une femme qui est sur chaise roulante pendant des années, qui n'est pas guérie. À la fin de la réunion, les gens étaient choqués. Comment cette prostituée qu'on connaît en ville est guérie et la femme consacrée n'est pas guérie? Elle était en colère. Elle dit, mais pasteur, personne n'est même ici, cette femme-là. Personne n'est même. Voici une prostituée vient, elle est guérie. Et moi, je suis là, je ne suis pas guérie. Et le Saint-Esprit a révélé, qu'y a-t-il entre vous et votre sœur? Dès que cela a été dit, elle s'est mise en colère. Il dit, ma sœur, cette prostituée qui a ses dents serrées, cette femme consacrée, elle avait l'amertume et le ressentiment dans son cœur depuis des années. Tout le monde l'admirait comme la femme consacrée de l'église, alors que son âme était empoisonnée. Et elle a réagi négativement, en colère. Et que la prostituée est venue, quand elle a entendu l'évangile de paix, l'évangile d'amour, elle a dit, Seigneur, oh Dieu, je ne mérite pas. Je veux ta grâce. Elle a été touchée. Et cette femme consacrée n'avait pas été touchée. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas guérie. Parce qu'elle refuse de pardonner ce que sa sœur lui a fait. Frères et sœurs, donc on va baisser la tête. Réfléchissons ce soir. Notre Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour. Ne le limitons pas. C'est un Dieu qui n'a jamais cessé. Un Dieu qui continue de bénir et de poser sa main sur nous. Un Dieu qui, dans son amour, agit de plusieurs manières. Un Dieu qui manifeste sa grâce par plusieurs méthodes. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter comment, par qui, où et quand Dieu va nous guérir. Ce qui est sûr, nous devons savoir une seule chose, que Dieu a dressé la croix du calvaire, et sur cette croix, son Fils a été crucifié, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en lui reçoive le pardon de ses péchés. D'abord, la réconciliation avec Dieu, notre Père. Et c'est la plus grande guérison, la guérison de l'âme. La guérison de l'âme est la plus grande. Quand un homme est guéri dans son âme et réconcilié avec Dieu et dans la paix avec Dieu, cet homme ou cette femme-là a une joie, la joie du salut, et son âme est restaurée totalement. Et alors, une vie nouvelle commence dans cette personne-là. Si vous êtes parmi nous ce soir et que vous n'avez pas encore réalisé la paix avec Dieu par Jésus-Christ, Dieu vous donne l'opportunité ce soir, chers amis, vous qui nous suivez sur Internet actuellement. Si parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas reçu ce Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, Dieu vous donne l'opportunité en ce soir pour que vous puissiez venir à lui au moyen donc du salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous qui êtes ici avec nous, ou vous qui êtes loin, là où vous êtes, vous pouvez simplement lever votre main comme un signe de dire que je crois que Christ Jésus est le guérisseur de mon âme, qu'il a pris mes péchés pour guérir mon âme, pour que mon âme rentre dans la paix, mon âme soit sauvée, mon âme soit restaurée. S'il y a des gens parmi nous ici, levez votre main, qui n'ont pas fait cette réconciliation, et c'est la plus grande guérison. Et cette guérison est la plus importante. Elle vous donne une vie nouvelle. Elle vous permet que votre esprit soit régénéré, que votre âme soit restaurée, et que réellement, la paix entre vous et Dieu soit une réalité. Levez votre main là, simplement là où vous êtes. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation? Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont, oui, d'autres personnes qui sont là? Bon, mettez votre main sur votre poitrine simplement. Ceux qui ont levé la main, mettez votre main sur votre poitrine, dites avec moi, Seigneur Jésus. Vous qui avez posé votre main, dites, Seigneur Jésus, je te remercie ce soir, car j'ai réalisé que tu es l'agneau de Dieu qui a été sacrifié et qui a porté mes péchés à la croix du calvaire. Et que par ton sang, tu m'as réconcilié avec le Père et que mes péchés sont pardonnés, car je suis né dans le péché. Mais toi, tu es mort pour le péché. Et maintenant,
je reçois le pardon non seulement de mes péchés, et je suis réconcilié avec le Père. Et le Saint-Esprit de Dieu vient dans mon cœur parce que je confesse Jésus comme Seigneur de ma vie. Je lui livre entièrement ma vie pour qu'il y règne. Et à partir de maintenant, Jésus, sois Seigneur de ma vie. Règne sur mon cœur. Et comme vous l'avez fait, le Saint-Esprit maintenant vous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Dites avec moi, maintenant, j'ai reçu la capacité de devenir enfant de Dieu, né de nouveau dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Et je reçois maintenant un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis enfant de Dieu et Dieu est mon Père. Merci pour ce grand miracle, cette grande guérison de mon âme et cette régénération de mon esprit. Merci. Amen.